Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez sans trop le savoir. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Et une série de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2021 à Reims. Bienvenue dans l'épisode 2. Désirez-vous connaître le menu du jour ? Alors, vous allez pouvoir jouer aux échecs, mais aussi vagabonder dans le plus petit théâtre de France. Nos pérégrinations nous emmèneront également dans divers quartiers rémois. Orgeval, Croix-Rouge et Europe. D'ailleurs, notre première halte est au quartier Europe. Enfin, avouons, nous trichons un peu puisque c'est plutôt l'association installée au quartier Europe qui nous a rendu visite dans nos locaux. Et l'association, me direz-vous. Il s'agit de Jeune Event 51. Vous les avez déjà entendus sur les ondes de Radio Primitive. Mais trêve de bavardage, laissons-les se présenter et nous présenter leur projet.
Je suis Bambo Sacco, l'un des fondateurs de l'association Jeune Event 51. Jeune Event 51, c'est une association qui est très jeune, une association médiatique et événementielle à la fois. Elle a été créée il y a 2 ans et justement, nos missions sont de mettre en valeur les acteurs de la ville d'Arles. Comment ? En faisant des interviews, des reportages, mais aussi proposer des événements inédits.
Moi, je tiens à me présenter, je suis Rudy Kimanga, je suis le deuxième fondateur des Jeunes Event 51. Pourquoi on a fondé l'association ? C'était parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait une certaine problématique au niveau de la visibilité des acteurs globaux de la ville de Reims, que ce soit entrepreneurs, jeunes talents, chefs d'entreprise et autres structures institutionnelles. On s'est dit pourquoi pas essayer de mettre ça en avant de par le biais de la vidéo. Ça a commencé comme ça et l'idée elle s'est approfondie aussi parce que je suivais beaucoup de mes amis qui étaient rappeurs, chanteurs. J'ai suivi avec ma caméra et j'ai vu qu'il y avait une certaine problématique au niveau de ça. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à jouer et j'ai vu que j'aimais faire ça. Et je suis aussi entrepreneur de côté aussi.
Alors, si vous êtes dans les studios de Radio Primitive aujourd'hui, à la mi-août 2021, c'est pour nous parler d'un projet, le projet Air Vibes, qui est donc monté dans le cadre de ce que l'on appelle les contrats de ville. Est-ce qu'il est possible de nous présenter ce projet et surtout, pour commencer, avant d'aller dans les détails, nous expliquer comment il est né et pourquoi une association, si jeune, s'est lancée dans un projet aussi ambitieux. Parce qu'on va le voir, il y a un peu de matière quand même.
Bah, écoutez, déjà, nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux, rêveurs après tout. Le but de cet événement, c'était de mettre en valeur les jeunes talents qui sont issus des quartiers prioritaires, mais pas que aussi, les jeunes rémois. Parce qu'à un moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque.
Il y avait un manque notamment de visibilité, voilà, il y avait un manque de suivi aussi, parce que j'ai fréquenté la plupart de ces jeunes-là et j'ai fait une étude de terrain avec le département, merci à eux de m'avoir aidé. Notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de suivi et d'accompagnement et que les jeunes ne savaient pas où enregistrer, comment financer leurs clips, comment financer leur appareil photo, comment être suivi, comment être accompagné. Et on s'est dit pourquoi pas faire appel à la ville de Reims, merci à eux de nous avoir suivis aussi,
merci
pour essayer de faire un concours. Notamment pour mettre ces jeunes-là en avant et leur permettre, pourquoi pas, d'être insérés professionnellement dans le milieu du travail par ce biais-là ou bien décrocher un contrat dans un studio. On s'est dit par rapport à ça et c'est pour ça qu'on a participé au concours et je pense qu'on a participé à ça aussi à cause de notre amour pour les gens, je pense. Je pense que c'est vraiment l'amour de la personne, de l'être humain qui nous a permis notamment de décrocher ces 2 contrats de ville et d'avoir un suivi par rapport à ces jeunes-là. Et ensuite, on a été mis en relation, grâce à Madame Nathalie Varnier, on a été mis en relation avec la cartonnerie. Et on a eu un excellent suivi avec les élus qui étaient à notre écoute et qui nous ont vraiment facilité les choses. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait se tourner vers la ville à l'heure d'aujourd'hui. Et on a fait le concours Air Vibes. Et
Et à l'heure actuelle, voilà, donc on a, alors ce jour, nous avons sélectionné 10 finalistes qui ont été jugés par les différents juges, les professionnels de la cartonnerie, le chef studio ils sont.
Aussi.
Et aussi Nathalie Vanier qui était bien présente aussi.
Elle était très présente, elle était vraiment là. Mmh. Et je vais vous dire quelque chose, nous on fait partie des quartiers prioritaires de base. Et depuis le début qu'on est dans le milieu associatif, ça nous a permis une ouverture d'esprit. Grâce aux deux contrats de ville notamment, on a réfléchi à plusieurs autres projets qui sont de côté. Notamment, pourquoi pas faire des temps de réflexion pour faire ressortir la problématique de la jeunesse rémoise aussi. C'est grâce aux contrats de ville qu'on a eu cette ouverture d'esprit.
Alors pour le concours, pour revenir au concours, la clôture des inscriptions c'était vers fin mai. Il y a déjà eu la sélection. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'était ouvert à tout style de musique? Est-ce que...
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Ce qui était vraiment sympa, c'est que on a rencontré différents styles de musique, majoritairement voilà du rap R&B, mais aussi voilà ça peut être de la soul, ça a pu être un peu de rock aussi. Et du coup voilà nous cette association nous sommes ouverts. Après tout, la sauce Genève 51, elle regroupe plusieurs jeunes de différentes origines ethniques avec des compétences spécifiques, des monteurs, des cadreurs, des juristes, des étudiants, demandeurs d'emploi, et ainsi de suite. Et du coup, nous, ça a été un réel plaisir de constater une réelle diversité dans ces quartiers-là. Et on se rend compte que, oui, la jeunesse rémoise, c'est vraiment un
talent. En fait, le concours, il est à l'image de l'association. C'est vraiment diversifié, c'est ouvert à tous. À tout style de musique, ça peut être un rocker, ça peut être un rappeur, ça peut être un chanteur, ça peut être un jeune débutant qui a envie de commencer. C'est vraiment ouvert à tous et je pense que la vocation du concours, c'était de donner un suivi à la jeunesse. Notamment parce qu'on sait que dans les quartiers prioritaires, avoir accès au studio, c'est très difficile. Et là, avec la ville, on leur a fait un studio et un accompagnement très structuré.
Alors pour parler de cet accompagnement et de ces studios, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour les jeunes qui ont été sélectionnés vraiment dans le détail? Qu'est-ce qui va se passer encore pour eux maintenant?
Alors du coup là, ces jeunes finalistes seront suivis par des professionnels de la cartonnerie ainsi que le chalet studio. Donc ils vont bénéficier des ateliers, de différentes activités, répétitions, montage. Et puis voilà, après je suis pas un artiste mais donc je sais que voilà ils seront vraiment suivis et justement pendant leur suivi, leur accompagnement, ce seront ces parties là qui seront médiatisées en quelque sorte
avec des enregistrements à la clé.
Avec des enregistrements à la clé pour les deux finalistes, ce serait un EP à gagner. Ça n'a jamais été fait dans la ville de Reims, hein, ce genre d'événement, surtout ouvert pour les quartiers prioritaires dès le début.
C'est ça.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'innovant et ça peut par la suite apporter à d'autres choses qui seront bénéfiques pour la jeunesse rémoise.
Et le but, voilà, c'est de donner confiance à cette jeunesse-là. Allez-y, venez, la ville de Reims, vous aident. Les dispositifs de la ville vous aident, cartonnerie, le chalet studio, etc. Et à l'avenir, voilà, on espère que cet événement-là se fera chaque année.
Chaque année, de manière globale, ouvert à tous les Rémois. Parce que je sais que dans la ville de Reims, il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup d'artistes qui auraient voulu participer au concours et j'espère que dans les années à venir, ça sera ouvert à eux aussi.
Yes. Si on veut suivre le projet, savoir un peu qui sont les finalistes, être au courant des EP, même si ça ne se fait pas en deux secondes un EP, on est bien d'accord, mais il y a moyen de suivre tout ça de près?
Tout à fait. Tous nos actions sont filmées. Donc, c'est-à-dire que ça fera une émission de ce concours-là. Je vous donne un exemple. J'ai pas Nouvelle Star ou voilà ce genre de concept. Donc voilà, chaque artiste sera suivi avec justement un accompagnement visuel qui seront filmés. Donc là justement, les internautes pourront suivre voilà l'avancement du projet.
Et puis aussi, on pourra suivre tous les avancements du projet sur nos réseaux sociaux aussi, qui est Genève 51. On est présent sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous pourrez suivre tous les contenus. Par rapport à AirVibes et d'autres dispositifs qu'on est en train de travailler.
Alors justement, parlons d'autres dispositifs. AirVibes, c'est donc le concours, mais est-ce qu'il y a également d'autres volets dont on n'aurait pas encore parlé?
Oui, justement, on a un deuxième contrat de ville. Nous, on fait des CV vidéo, notamment pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes ici, encore une fois, de quartiers prioritaires. avec une partie mise en beauté. Ça voudrait dire qu'on pourrait accompagner le jeune au salon de coiffure, travailler sa posture et faire son CV vidéo et le transmettre aux entreprises dans lesquelles on a fait l'événement, la caravane de l'emploi ou autre, notamment faire la communication sur les réseaux sociaux.
La caravane de l'emploi qui a été un très grand événement d'ailleurs. On remercie d'ailleurs monsieur El Ghassaoui.
Et monsieur Vatier.
Monsieur Vatier aussi monsieur également. Qui a regroupé justement plusieurs acteurs de l'insertion professionnelle, tels que Pôle emploi, tels que l'école de jeune chance, la chambre de commerce également, les boîtes d'intérim, des entreprises qui sont venues vraiment à la rencontre des habitants des QPV. Et justement, nous, notre but, c'est que ces CV vidéo-là, de ces jeunes-là, bien sûr, nous, on les relayons à ces différents recruteurs qui recherchent éventuellement des profils intéressants.
Comment ça s'est passé pour les CV vidéo? C'est les jeunes qui sont venus vers vous? Vous avez fait un appel ou vous en aviez repéré certains via d'autres partenaires ou...
On a fait un appel à candidature dans les quartiers prioritaires. Là, je crois qu'on en est à plus de 5 CV vidéo ou une dizaine.
Et puis, on a une certaine facilité justement à créer une relation avec ces jeunes-là. Parce que, bon... La plupart ne savent pas comment s'y prendre. Et nous, voilà, notre force dans l'association, c'est qu'on peut s'adapter à ces différentes, à ces différents jeunes.
En fait, voilà, c'est des jeunes qu'on se comprend, en fait. Ouais. On se voit en eux et ils se voient en nous. C'est pour ça qu'on a autant de facilité, notamment, à communiquer avec eux.
Ça s'est passé comment, la réalisation de ces CV vidéo? Parce que c'est... bon, effectivement, en 2021... Il y a beaucoup de jeunes qui ont l'habitude de faire des snaps, d'aller sur TikTok ou même de se lancer sur YouTube. Mais en vrai, pour la plupart, ça reste difficile de prendre la parole et de se montrer.
Justement, ils étaient ils étaient un peu timides au début. Mais par la suite, comme j'ai dit, c'est un échange. C'est comme si on avait une discussion. On les a mis à l'aise, justement. On a eu une discussion, notamment sur leur parcours professionnel et scolaire. Et par la suite, ils étaient plus à l'aise. C'est comme si j'avais une conversation avec vous. Et c'est pas facile de passer devant la caméra la première fois.
Non, c'est super dur.
C'est pour ça qu'il est très important, notamment, de les mettre à l'aise. Et on a fait les CV vidéo dans nos locaux.
Ouais.
Dans nos locaux à Europe. Et on les a mis à l'aise. Et ça allait tout seul au début.
C'est des CV vidéo pour... du coup, c'est des profils, on va dire, très différents. C'est aussi bien des jeunes qui candidatent, je sais pas moi, pour de la restauration, de l'hôtellerie. Que,
Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, on a eu beaucoup de profils différents, distincts. Dans la restauration, dans le marketing, c'est vraiment ouvert, que ce soit pour des contrats en CDD, CDI, stage ou alternance. Là, vraiment...
C'est ouvert, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est à l'image de l'association, c'est ouvert à tous, c'est vachement diversifié. On est toujours dans la continuité de ce qu'on fait.
Vous nous avez dit que vous aviez des locaux à Europe. Du coup, vous êtes basé à l'année dans le quartier Europe ou vous promenez un peu
On a commencé, on était assez nomades. Mais grâce à la ville de Reims, on est incubé dans une grande association qui s'appelle Bronca, qui est située à la place Jean Moulin. C'est encore une fois grâce à la ville de Reims et leur bienveillance qu'on a pu trouver ces locaux-là. Et on est incubé, on est là-bas tous les jeudis. Comme on a dit, c'est là-bas qu'on fait les CV vidéo, c'est là-bas qu'on travaille tous les jeudis. Là, on va essayer de faire des temps de réflexion pour faire ressortir les problématiques de toute la jeunesse rémoise et c'est là-bas qu'on sera présent. Place Jean Moulin.
Si je peux me permettre pour ajouter, pour que ce soit plus compréhensible pour certains internautes, le but, c'est de créer des débats sur des sujets d'actualité. Mais bien sûr, ce seront majoritairement, principalement ces jeunes-là qui vont venir pour échanger.
Notamment, on sait que c'est bientôt les présidentielles.
Voilà.
Et il y a un taux d'absentéisme, notamment dans les quartiers prioritaires, qui est très élevé. Et on s'est dit, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir l'idée de faire des débats, des temps de réflexion pour faire ressortir ces problématiques-là, parce que c'est important pour que la jeunesse, c'est important que la jeunesse donne son avis à l'heure d'aujourd'hui.
D'où justement faire ces débats, sous forme d'émissions, bien sûr, pour que ce soit plus parlant. Pour ces jeunes-là, parce que justement ces jeunes-là on les retrouve principalement dans les réseaux sociaux et justement avec un certain type de langage, bien sûr on va s'adapter aux invités du coup et à l'avenir justement nous on espère faire notre propre média d'information à Reims, d'accord, pour être un point relais d'information entre les dispositifs de Reims tels que vous telles que la Carte en Ville, telles que des associations ou des institutions avec la jeunesse, et qui est une structure qui peut vraiment va permettre justement à l'un comme l'autre de mieux se comprendre.
Exactement, on est un point relais. On a un point relais, on favorise l'échange, les discussions, les conversations et une meilleure appréhension de chacun. C'est ce qu'on a vraiment voulu faire depuis le début de la création de l'association.
Pour terminer, on vient de parler un peu de différents projets, hein, une émission, enfin des émissions régulières, des débats. Il y a aussi le projet Air Vibes qui continue. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou qui mijotent pour la fin d'année 2021 ou début 2022?
Comme vous savez, on est aussi entrepreneur dans ce qu'on fait et on aime vraiment ce qu'on fait. Et on a aussi des projets digitaux. Ouais. Notamment en digital, on sait qu'aujourd'hui le monde est tourné vers le digital, vers la vente à distance, vers tous ces cheminements-là. Et on a beaucoup de projets par rapport à ça.
On pourrait faire garder la surprise.
Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Ouais. Merci beaucoup.
Écoutez Radio Primitive et l'émission « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» Aujourd'hui, épisode 2. Savez-vous jouer aux échecs ? Non ? De nombreux petits Rémois s'entraînent, eux, assidûment à Orgeval et à Croix-Rouge dans les maisons de quartier. Le club d'échecs du Grand Reims propose en effet des initiations. Des initiations, mais aussi des compétitions. D'ailleurs, le projet se nomme « Parcours d'excellence du jeu d'échecs ». Tout un programme.
Ça, c'est le
cavalier.
Ça, c'est le roi. Voilà.
Allez, c'est parti. Regardez-vous, ta dame, là, elle est positionnée. Regardez, entre quatre cases, on ne sait pas trop. Allez, ici.
Fabrice Barral, j'ai 53 ans. Ça fait quelques années que je fais l'animation dans le jeu d'échecs. J'ai commencé dans le club de Chalon, qui est un des deuxième plus gros clubs de France. Et il y a 3 ans, j'ai décidé avec... un autre joueur d'échecs très fort, maître international Antoine Favarel, de créer un club d'échecs sur Grand Reims pour être surtout à proximité des quartiers et des villages attenants à Reims. Voilà. Pour essayer de développer les échecs au niveau de la proximité, parce que c'est très important la proximité. Je me suis rendu compte que les personnes qui étaient un petit peu à l'extérieur ou pas vers le centre-ville, ils avaient moins facilité à avoir accès aux échecs. Pourtant, il y a les transports en commun, mais souvent dans les quartiers par exemple comme Orgeval, je me suis rendu compte que les papas ont une voiture, souvent ils travaillent, et la maman n'a pas de voiture, donc elle s'occupe des enfants, donc c'est pas très facile pour se déplacer. Voilà. Donc ça c'était important aussi, la proximité. Et puis on a créé ce club. La première année on a eu 22 adhérents, la deuxième 50 adhérents, et la troisième là on a 55-60, bon, avec le, ça a été un petit peu ralenti la progression. Mais dans le cadre du développement du club et de notre but, c'est justement les échecs pour tous. Et donc, il y avait de jolis projets qui se faisaient, notamment sur Chalon, notamment ce parcours d'excellence. J'ai vu qu'il fonctionnait très bien. Donc j'ai juste copié ce qui se passait là-bas. J'ai pris ce qui marchait bien et puis j'ai voulu le redévelopper sur Reims. Donc on a commencé par le quartier Orgeval, puisqu'il n'y avait pas d'échecs apparemment. Et puis il y avait une demande par rapport aux écoles aussi, les enfants. Donc on fait de l'animation aussi du périscolaire dans les écoles, donc par le biais de... Donc il y a trois écoles, il y a Jean Massé, Charpentier et l'école à côté, voisine, qui nous permet d'avoir beaucoup d'enfants qui puissent avoir accès aux échecs. Donc on a fait une sélection en début d'année. On a fait une journée porte ouverte pour faire découvrir le jeu d'échecs avec un jeu d'échecs géant sur la place Simone Beauvoir, là devant la maison de quartier. Donc il y a eu pas mal de papas, mamans et d'enfants qui sont venus, donc c'était sympathique. Ça permet aussi aux parents de pouvoir découvrir aussi le jeu d'échecs, hein. Il n'y a pas que le foot aussi non plus, mais c'est bien de faire les deux. Donc auparavant j'avais rencontré la directrice de l'école Gagnani, puisque c'était très proche de la maison de quartier. Donc c'est vrai que les enseignants, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on met tout en place en amont pour pouvoir, voilà, parce que c'est difficile pour eux aussi de rajouter du travail. Et étant donné qu'on est, déjà en périscolaire dans ces écoles-là, on a pu faire découvrir le jeu d'échecs aussi rapidement. Bon, après, avec le confinement, c'était un petit peu délicat l'an dernier, puisqu'on n'a pas pu faire exactement l'action comme on pouvait, mais on a fait autrement, justement, en faisant une journée, un dimanche complet, pour faire découvrir aux jeunes et sélectionner les jeunes qui étaient intéressés du quartier, quoi.
Là, ce parcours d'excellence, c'est la première année, oui.
Voilà, qu'on a mis en place. Donc on va le renouveler l'année prochaine avec d'autres jeunes issus de ces écoles du quartier. Et donc cette année, ça s'est très bien passé. Donc on a eu, dans un premier temps, on a eu 12 enfants du parcours d'excellence, filles et garçons. Alors on essaie d'avoir moitié-moitié. Et puis les petits frères, les petites sœurs se sont greffés dessus. Donc on a réussi à atteindre l'objectif de 16. Hein. Donc voilà.
Et ça va de quel âge à quel âge ?
Alors de 3 ans et demi à 10 ans. Donc il y a des tout petits 3 ans et demi, il y en a deux. Voilà, c'est frères et sœurs des élèves qu'on avait dans le parcours d'excellence. Donc ça c'est super, c'est génial parce qu'ils ont appris à leur petit frère. Donc c'est le but aussi, c'est de pouvoir amener les échecs dans la famille aussi, qu'ils puissent jouer ensemble avec les parents, les frères et sœurs. Ça c'est génial. Et puis également, ça nous a permis de rencontrer ces enfants là qui sont super, hein, parce que c'est génial aussi de voir lors du tournoi les yeux des parents qui brillent, vous voyez leurs enfants qui jouent aux échecs, alors que des fois ils savent pas forcément jouer eux aussi, donc c'est valorisant pour l'enfant et pour les parents. Donc ça c'est super aussi. Au niveau de l'école aussi, les mamans nous disent souvent les enfants qui sont assez hyperactifs, ils arrivent à mieux se canaliser, donc c'est un travail de longue haleine, hein, mais ça permet de mieux se concentrer, ça leur apporte beaucoup au niveau scolaire aussi, c'est assez complémentaire, puisque ça leur permet de travailler le mécanisme, de chercher, de calculer, de prendre des décisions sur l'échec, et puis ils se rendent compte à travers le jeu que quand on prend une décision, les conséquences que ça entraîne. Voilà. Donc prendre conscience de ses actes, ça c'est important aussi.
Et à 3 ans et demi, malgré toutes ces difficultés, enfin c'est quand même très stratégique, les échecs, moi je n'y joue pas personnellement, mais ça me paraît très compliqué. À 3 ans et demi, on peut jouer aux échecs ?
Absolument, tout à fait. Bah, tout le monde peut apprendre à jouer aux échecs en une trentaine de minutes, hein, c'est à déplacer les pièces. Bon après, bien sûr, pour progresser, il faut travailler, hein, c'est comme tout, hein. C'est comme une partition de musique, hein. Il va falloir répéter, et puis progresser. Mais on peut tout à fait commencer à... Alors ça dépend des enfants, hein, des fois 3 ans et demi, 4 ans, en maternelle, en grande section, il n'y a pas de souci, ils sont très, très avides de nouvelles connaissances et ils apprécient beaucoup les échecs. Hein, il n'y a pas besoin de les forcer pour. Ça c'est un jeu qui les prend beaucoup.
Là tu as un échec par le fou, et un échec par la dame. Donc tu ne peux pas rester sur cette case. Il faut que tu trouves une autre case. Mais les cases blanches sont contrôlées, donc effectivement, une case. Vas-y.
Alors, comment tu t'appelles ?
Arthur.
Et tu as quel âge, Arthur ?
6 ans.
Et alors toi, pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'inscrire aux échecs ? Comment est-ce que tu as découvert ?
Parce que je voulais être un petit peu plus fort que papa.
Moi, j'aime pas trop le sport. Avant, j'aimais bien les dames. Et ma mère, elle a dit que ça serait bien d'essayer. Et j'ai essayé et j'ai bien aimé.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans les échecs ?
Qu'il faut beaucoup réfléchir.
Qu'est-ce que ça mobilise chez les enfants ? On disait concentration, bien évidemment.
Oui, la concentration, la confiance en soi, apprendre à perdre, gagner, ça c'est important. Le respect des règles, voilà. Pour les plus petits aussi, le placement dans l'espace, au niveau géométrique, etc. Hein, son positionnement dans l'espace. On a les diagonales, hein, c'est les colonnes, les rangées. Donc ça permet aussi de développer chez l'enfant au niveau géométrique des aptitudes simples. Hein, voilà. Et également aussi la réflexion, la concentration, voilà. La maîtrise de soi. Voilà, c'est déjà beaucoup. Voilà. Tout à fait.
Et vous avez des parents qui s'y sont mis aussi quand leurs enfants ont commencé à jouer ?
Alors absolument, il y a deux, trois mamans qui ont commencé à demander pour jouer, commencer à jouer avec leurs enfants, donc ça c'est génial. Donc pas tous, mais ça commence, donc ça c'est bien. Donc le but, c'est pour créer du lien social, quoi, hein, que les parents donc, parlent bien, on a partagé un goûter, un petit déjeuner. Actuellement, avec les contraintes sanitaires, c'était un peu délicat de faire ce qu'on voulait faire. Mais donc, on a essayé quand même de créer un moment de convivialité à travers un tournoi, et donc avec remise de coupe, etc. Donc, c'est la fierté des parents, ils sont contents avec leur enfant. Et puis, il y a des enfants qui ont commencé à s'inscrire dans les tournois traditionnels que l'on fait sur la ville et autour. Donc notamment à Chalon et à l'autre club de Reims Échecs et Maths. On a quelques clubs sur la Marne, donc ça c'est intéressant. Donc il n'y a pas de gros déplacements à faire. Et puis on commence comme ça, et puis pourquoi pas après faire plus s'ils continuent à travailler. Hein. Donc le but c'est de développer le club aussi sur Orgeval et de continuer ce parcours d'excellence. Donc on a renouvelé le projet l'année prochaine, donc on va refaire une nouvelle sélection d'enfants et puis continuer. Et puis le but c'est que les enfants qui étaient au parcours d'excellence cette année continuent à progresser dans les échecs avec nous. Quoi.
Alors c'est quoi ton prénom ?
4 ans.
Et tu as quel âge ?
8 ans.
Est-ce que tu as démarré les échecs cette année ou tu en avais déjà fait avant ?
Cette année.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire cette année ?
C'est à l'école avec Nicolas. Tous les lundis on fait échecs.
Ah, donc t'as découvert à l'école en fait et ensuite tu t'es inscrit au club.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a plu dans les échecs ?
Pourquoi ? Faire échecs et maths.
C'est gagner qui t'intéresse ? Et ça demande quoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour être bon aux échecs, à ton avis ?
Il faut réfléchir beaucoup.
T'as fait combien de tournois là cette année ?
Un seul.
Et ça s'est bien passé pour toi ?
Oui, j'ai gagné une coupe.
Ça t'a plu ?
Oui.
Est-ce que tu penses que tu vas en refaire des tournois ?
Oui.
Donc tu vas continuer l'année prochaine, toi, les échecs ?
Oui.
Ce parcours d'excellence, là, cette action politique de la ville, elle s'organise comment ? Ils s'entraînent combien de fois par semaine ? Ça, progressivement, ils vont vers les tournois ? Comment ça se passe ?
Tout à fait. Alors, ça consiste en 2 heures le mercredi matin, de 10h à midi. Donc, la première heure, on fait un cours de 45 minutes, 1 heure. Et puis après, ensuite, on fait 1 heure de partie libre. Alors, on fait soit sous forme d'un petit tournoi où ils jouent ensemble. Ça permet de mettre en application ce qu'on a vu au départ. Donc à raison de 30 à 35 semaines dans l'année, quoi, pendant la période scolaire. Voilà. Dès le mois de mai, quand il y a eu le déconfinement, on a pu mettre en place un tournoi pour que les enfants puissent jouer entre eux et intégrer les compétitions. Voilà.
Vous les avez vus progresser justement ?
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, notamment sur les tournois. Donc on a fait un tournoi en interne. C'est d'ailleurs une petite fille qui a gagné le tournoi. Donc ses parents, à sa maman, je lui dis, il y a un tournoi à Chalon. Après, donc elle s'est inscrite dans un tournoi traditionnel et elle a marqué, elle a fait 3 points sur 7, qui est presque la moyenne, qui est très bien, quoi, dans un tournoi, son premier tournoi officiel, quoi. Hein. Donc ça, c'est génial. Donc ils ont une belle progression, ils sont tout à fait au niveau d'autres enfants dans les autres clubs, hein, y a pas de souci. Hein. Les animateurs formés avec les diplômés de la FFE, hein, y a pas de souci.
Donc on a peut-être des futurs champions, là, à Orgeval.
Ah, bah ça, l'avenir nous le dira, mais pourquoi pas, ouais, c'est ça. S'ils continuent, c'est possible qu'ils deviennent, certains deviennent très forts, tout à fait, absolument.
J'ai l'impression qu'il y a eu un regain des échecs depuis quelques années, là. C'est le cas ?
Oui, tout à fait, absolument. Ben, notamment, il y a eu un film avant le premier confinement, Fame, avec l'histoire d'un jeune du Bangladesh qui était dans les bidonvilles de Paris, qui arrivait avec son papa, et puis il s'est inscrit à un club, et puis il est devenu champion de France. Bon, je résume rapidement l'histoire, hein, mais bon, c'est quelque chose, ils en ont fait un film. Bon, c'est un petit peu passé inaperçu avec le premier confinement, mais ensuite, pendant ce confinement, il y a eu aussi la série avec le jeu de la dame, qui a fait un carton mondialement. Donc ça a donné un engouement aussi, ça a relancé un engouement sur les échecs, notamment avec le confinement aussi, il y a beaucoup d'échecs sur Internet et sur le téléphone. Donc ça, on a une forte demande aussi pour la rentrée qui arrive, et même c'est, depuis le déconfinement, là, il y a pas mal d'adultes et d'autres enfants qui nous demandent au club pour reprendre les échecs. Quoi. Pour reprendre les échecs, voilà.
Alors Jeval, il y aura potentiellement des places à la rentrée pour des enfants qui souhaiteraient s'inscrire et qui n'étaient pas inscrits cette année?
Alors absolument, en début d'année on va faire une journée porte ouverte, également une sélection dans les écoles avec en fonction des contraintes sanitaires, on essaiera de faire au mieux pour sélectionner. Donc il y a 16 places, il nous faut, on prend 8 filles et 8 garçons, donc c'est ouvert, il faut poser sa candidature, il n'y a pas de souci.
Vous repartez sur la même configuration que cette année.
Voilà, tout à fait, très très bien. Voilà, c'est très bien passé, donc on va essayer de pérenniser le dispositif pour développer les échecs sur le quartier. Ça prend, c'est pas mal du tout quoi, pour une première année. Et en parallèle, on envisage de créer un créneau pour les collégiens et les plus grands. Quoi. Et même les adultes, on va essayer de faire à une horaire plus adaptée pour eux, puisque mercredi matin, ils n'ont pas accès puisqu'ils sont au collège. Donc notamment le collège qui est à côté, c'est, voilà, qui va permettre de créer des passions chez des jeunes adolescents qui sont peut-être en demande aussi d'échecs.
Voilà. Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Je voudrais remercier aussi la ville pour ce merveilleux projet qui nous a fait confiance et qui nous a aidé, qui a financé ce projet sur Orgeval. Également l'État qui a mis la main à la poche. Donc ça c'est. Et on a eu la confiance renouvelée pour l'année prochaine, donc ça c'est génial, donc je les remercie beaucoup. Voilà, ça nous permet de les remercier pour les enfants et les familles pour développer sur le quartier les échecs.
Merci beaucoup.
Oui, mais là tu peux pas. Tu peux peut-être sur la avec une autre pièce, pas avec le jeu.
Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de politique de la ville. Vous êtes-vous déjà rendu dans le plus petit théâtre de France ? Non ? Mais qu'attendez-vous ? Il n'est pas loin, dans le quartier Orgeval, juste en face de Radio Primitive, sur la place de Fermat. Le Gourbi, tel est son nom. Le Facteur Théâtre, l'association qui gère et a créé ce lieu, propose tout au long de l'année de nombreux projets aux habitantes et habitants du territoire. Et malgré l'année compliquée que nous venons de vivre, ils n'ont pas chômé. Prenons donc un café avec Didier Lelong.
Didier Lelong, le directeur artistique de la compagnie Le Facteur Théâtre, et non pas Facteur Théâtre, qui est une compagnie québécoise. Nous sommes ici au Gourbi, à sa troisième adresse du Gourbi, puisque Le Facteur Théâtre est implanté dans le quartier depuis 1er janvier 1994, pour ensuite, au bout de 7 ans, déménager au 42 rue Raymond Poincaré dans un garage à vélo. Ensuite, nous avons déménagé à l'ancienne agence de Reims Habitat, qui était l'OPAC à l'époque. Et depuis 2 ans, nous sommes 3 places de Fermat, dans ce qui a été un magasin alimentaire, où nous avons installé notre théâtre, Le Gourbi, donc qui a maintenant 27 ans d'existence, de façon à être sur cette place, au milieu, ce qui était notre souhait depuis très longtemps, au milieu de la circulation et de la vie des habitants, parmi les commerces, l'annexe de la mairie, les assistantes maternelles. Bon, la boulangerie n'a pas de chance, elle est partie.
Oui, mais il y en a une autre
qui a ouvert en face, heureusement. Voilà, puis d'être dans cette rénovation, de profiter de cette rénovation urbaine pour venir ici. On doit dire qu'on doit beaucoup une fière chandelle quand même, parce qu'on ne le cite pas assez, à OPAC devenu Reims Habitat, qui nous accompagne depuis quand même 27 ans dans cette histoire-là, en nous trouvant des lieux, des locaux. Nos bureaux sont à Croix-Rouge, hein, puisqu'il y avait un projet de théâtre à une époque en 1997 à Croix-Rouge. Nos bureaux sont là-bas, c'est là aussi qu'on peut héberger pour deux chambres des comédiens qui viendraient de l'extérieur. On a un local à Croix-Rouge, aussi 80 mètres carrés, où sont engrangés à la fois les anciens décors ou les décors qui vont être retravaillés, mais aussi une réserve avec du bois, tout ça, et qui met aussi ce qu'on appelle nous maintenant l'annexe. Ici, aux 3 places de Fermat, c'est le théâtre, et au 43A Schweitzer, on a, avec les balcons, 88 mètres carrés, qui nous permettent d'avoir la cantine pour manger le midi pour les répétitions, ou quand on fait notre manifestation l'été en automne avec 10, 20, 30, 40 auteurs, faire la restauration. C'est là qu'il y a le magasin matériel, l'entrepôt. Ici, il y en a très peu parce que on n'a pas... Là, tout est réduit, c'est vraiment petit théâtre. Et puis, on a tout déménagé. Et donc, il y a le magasin à costumes aussi. Enfin, voilà. Et c'est notre implantation ici. Alors, le facteur théâtre en hommage au singulier de l'art, ça c'est ma propre histoire, mais avant il y a eu une compagnie qui était plus une troupe de 4 personnes qui s'est appelée le théâtre singulier, avec un S à singulier en hommage au singulier de l'art. Dans les singuliers de l'art, il y a le facteur Ferdinand Cheval, le facteur Cheval, avec son palais idéal, dont on voit ici quelques images, comme ça, parce que j'ai dit, tiens, maintenant, il faudrait peut-être qu'on le fasse, puisque des gens se trompent et nous appellent le facteur Cheval. Et ce qui est un honneur.
3 lieux,
oui.
Un à Croix-Rouge, 2 à Orgeval, le théâtre.
4 lieux.
4 lieux, j'en ai oublié un, du coup.
Oui, oui, le garage à décor.
Ah, oui, d'accord.
Voilà.
Oui, c'est pas... 4 lieux. Et un théâtre qui a des spécificités de par sa taille aussi, avant de parler
oui.
des différentes actions et de ce qui peut se dérouler dedans.
Simplement, comme on est aussi sur un rapport de travail artistique de qualité, à la mesure de nos moyens, mais d'exigence, on a été amené à aller dans des CDN aussi, de par notre art, la pratique de notre art, et... Jean-Michel Ribes a qualifié le Gourbi de plus petit théâtre de France. Donc, ce qui est une belle appellation, surtout quand elle est signée, c'est bien. Et à l'ouverture de Place de Fermat, l'AFP a fait une enquête. Alors, je ne sais pas du tout. Je sais que j'ai vu des photos l'autre jour sur Internet de leur reportage. Je ne sais pas du tout si l'article est sorti parce que c'était en décembre, ça avait le temps de sortir, et puis ils savaient qu'on sortait en mars. Donc, en disant, je vais envoyer tout ça, et je ne sais pas, avec la pandémie, s'ils ont eu le temps de faire, de sortir. Mais je crois que si, parce qu'on a été contactés par des journaux rigolos, du genre Aujourd'hui Madame.
Ah oui, d'accord.
C'est pas Aujourd'hui Madame, mais, ou Femme Pratique, enfin, on nous a demandé d'envoyer des photos, un petit topo, et tout. Alors, je ne sais pas ce qui... Voilà, mais je pense que c'est justement, ça c'est l'effet AFP, parce que nous on n'envoie pas des articles là-bas.
Alors si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler des actions que peut mener le facteur théâtre dans le cadre de ce qu'on appelle politique de la ville. Alors est-ce qu'il est possible de faire un petit état des lieux, là on est fin août 2021, sur ce qui a pu déjà être réalisé dans l'année, et surtout ce qui est à venir, en sachant que 2021... C'est une année comme 2020, un peu compliquée.
Peu compliquée, oui.
Mais néanmoins, des choses naissent quand même.
Alors, nous, on a appris en 2021, on a eu un réflexe tout de suite en 2020, dès le début de la pandémie. Je crois que le 15, le blackout était décidé, le confinement général. Nous, on travaille depuis, on mène des actions, des ateliers avec un groupe qui travaille, qui vient à la maison de quartier, qui travaille en alphabétisation au niveau de la langue française avec des gens en FLE, alors voilà les appellations, France, oui. Français, langue étrangère.
C'est le groupe de sociolinguistique.
Voilà, le groupe sociolinguistique qui est mené par Catherine Brion. Et de tout l'ensemble de ce groupe, au fur et à mesure, nous, on prend des gens pour écrire du théâtre, puisque l'action, c'est aussi d'expliquer, et je suis persuadé, étant auteur de théâtre, par rapport au théâtre contemporain, souvent on dit « Ah, c'est trop compliqué pour moi ». Je ne sais pas, des fois, ce que les gens comprennent mieux en lisant du Shakespeare, par exemple, parce que Shakespeare, c'est une langue quand même très riche. Très riche et dire pour dire je t'aime, ça prend quand même 5-6 pages. Hein. La scène du balcon, elle est pas mal de Shakespeare dans Roméo et Juliette. Et paraît-il que ce serait pas pour nous, disent beaucoup de gens, pas seulement à Orgeval, hein. Ça peut être partout. Nous on a choisi d'être ici. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose quand on est arrivé ici en 1993, décidément. Et donc, on a tout de suite décidé de voir comment, avec les moyens modernes, Internet, Facebook, on pouvait continuer à amener au moins tout ce qui était du domaine de l'atelier d'écriture. Et ce qui fait que je crois que le 21 ou 22 mars, était en place un atelier avec une assistance particulière de la part de Catherine pour qu'ils apprennent à se servir des outils. Il y en a, on a perdu quand même des gens, hein, parce que déjà tout le monde n'a pas un ordinateur chez lui, etc. Donc c'était pas simple, mais on a réussi à garder et du coup à faire écrire les personnes, à continuer d'une part tout un travail qui venait juste de se terminer en présentiel, qu'on faisait d'ailleurs ici, en partie, au niveau de l'écriture. Et puis, on ne disait pas en présentiel à l'époque, c'est... maintenant on le dit. Voilà, on a décidé de mettre ça. Ils ont terminé un atelier qui était prévu autour de la peinture, dont la réalisation et la mise en scène a eu lieu en juin 21 au Gourbi. La présentation du travail finie. Et le groupe étant assez performant, vraiment avec jeu, apprentissage de texte par cœur, etc. Ce qui n'est pas toujours gagné, puisqu'il y en a qui ont des petits soucis dans l'élocution, dans la mémoire, dans l'attention, la concentration. Et puis, en même temps, on a mené tout un atelier autour d'une thématique d'échange. J'ai imaginé, puis après c'est Alberto Lombardo qui travaille, qui est un auteur qui travaille avec nous, puis qui est comédien, et metteur en scène aussi, qui j'ai imaginé un grand-oncle qui était tranquillement à la campagne, dans ses montagnes, et qui demandait aux personnes, à ses petits-enfants, sa famille, tout ça, alors tu dois être en vacances en ce moment, qu'est-ce que tu fais au bord de la mer, etc. Voilà, d'en sortir par l'imaginaire et l'imagination, parce que, apparemment, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il y en a aussi qui n'allaient pas bien, évidemment. Donc, l'exercice d'écriture qui permettait de s'imaginer au bord de la mer quand... certains ils connaissaient, parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas. Enfin, voilà, ils avaient une liberté comme ça d'imaginer un endroit où ils seraient ailleurs, en dehors de la maison, pour éviter, pour mettre l'esprit ailleurs que dans l'angoisse, l'anxiété, l'amorosité dans laquelle on pourrait tomber quand on est confiné chez soi et qu'on ne peut pas bouger. Voilà. Et ça a continué. Ça a été donné en juillet dernier, au milieu des tours. Et puis, alors, dans nos actions, il y a ça. Et puis, il y a évidemment faire des spectacles. L'accueil des gens. C'est de faire venir des gens, des personnes au spectacle. La population ciblée, qui est quand même nos voisins, des CIDEA. Mais bon, on sait qu'il y en a qui ne viendront pas, des fois. Hein. Je me rappelle un père de famille, quand on était au 42 rue Raymond Poincaré, on a eu toutes les filles. J'étais même content de les retrouver à la Comédie de Reims un soir à une présentation de saison. Et Monsieur Lelon, on est là, avec leurs copines. Ça fait toujours plaisir, parce que bon, peut-être qu'ils n'osaient pas faire le pas. Et puis, on a fait travailler, ça c'est une chose importante cette année, dans le projet de cette année, pour en revenir, c'est que, compte tenu des incertitudes, des confinements, des choses qu'on n'avait pas le droit, qu'on a toujours du mal à s'y reconnaître d'ailleurs, on a envoyé sur tout ce qu'on avait de fichiers, là c'est l'informatique, on ne pouvait pas faire autrement, aussi bien à toutes les maisons de quartier, puisque c'est un peu des relais sur tous les quartiers, à tout notre fichier des gens qui nous suivent, par le biais du SUAC à l'ensemble des étudiants en lettres, notamment, parce que maintenant il y a aussi un pôle culture à la fac, c'est pas vieux. Et à tous les collèges, au lycée, qui encore, on a envoyé très très large, aux bibliothèques, et on a envoyé un appel à texte en février, texte court, 5 minutes, pas plus de 5 minutes, pas plus de 2 personnages, pas de monologue, théâtre, quoi, voilà, dialogue, on est obligé de dire pas de monologue, parce que sans ça les gens nous font des nouvelles, et on l'a envoyé évidemment à tout le réseau professionnel qu'on a, d'auteurs. Je est un autre. Vous vous réveillez un matin, il y a quelque chose de changé, vous ne savez pas quoi, et vous rencontrez quelqu'un qui vous connaît bien. C'est là que vous savez que je est un autre. Ça me semblait un sujet bien. C'est pas moi qui ai trouvé le sujet, mais c'est là-dedans qu'on cherchait, compte tenu de cette pandémie, de ce renforcement peut-être de solitude des uns des autres. D'un seul coup, je me lève, ça a changé. Mais c'est vrai que de toute façon, je crois qu'avec toute cette histoire de Covid, il y a des gens qui ont changé. Il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui ont déménagé.
Qui ont changé de métier.
Et encore là, avec le pass, je pense qu'il y a encore d'autres gens qui ont changé de métier et d'autres orientations de vie. Donc il y a quand même, si on additionne tous les pourcentages qu'on peut lire dans la presse, ça ne fait pas tout le monde, mais ça fait quand même 20-30% de personnes, je pense. Qui sont interrogés quand même. Ça interroge dans la vie de chacun. Donc voilà. Et il y aura 27 textes qui vont être lus dans notre été en automne, les écrivains de théâtre en errance en automne, en présence des auteurs, qui seront à la fois des professionnels ou des gens de Reims qui ont écrit, des étudiants, des gens, ils s'appellent les seniors de la maison de quartier du Ludoval, qui font du théâtre amateur depuis un petit bout de temps. Et puis d'autres gens, des gens qu'on ne connaît pas. Hein. On va les découvrir, on va les connaître. Ils nous ont envoyé, donc on a dit on en prend un plus grand nombre possible. Et puis ça va nous permettre de faire venir des gens ici aussi. Enfin voilà, on va apprendre à se connaître. C'est tout le but du jeu. Et puis, après. Et puis, il y a aussi le côté formation. J'y pense parce qu'il est dans le contrat de ville sans y être, puisque l'été en automne est dans le contrat de ville pour une partie, dans la politique de la ville. C'est la formation. La formation, c'est comment mener un atelier d'écriture théâtrale. Et puis, à la découverte, un petit peu à travers des stagiaires. Qui vont venir, on envoie un texte contemporain qui est en lien avec une création, là ça va être celui-là, bon là l'auteur sera pas là puisqu'il est décédé, mais ils vont appréhender, la plupart du temps ils connaissent pas le texte, hein, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas grand monde qui lit l'écriture contemporaine, et puis ils vont lire, ils vont voir la mise en scène, ils se seront fait une idée, ce sera certainement pas différent. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si on est enseignant, ou dans une bibliothèque, ou animateur dans une maison de quartier. On a décidé de faire du théâtre mais que des fois on n'y va jamais, on n'y est jamais allé, et on décide de faire un atelier de théâtre, on fait de l'impro, bah oui, mais est-ce que dans la langue française on fait de l'impro? Je ne suis pas sûr, hein. Il faut connaître la langue française pour faire de l'impro. Il y a des codes, il y a des règles, on peut les casser, mais bon. Dire le free jazz, ça existe, mais c'est des bétains qu'on fait des grandes œuvres aussi, qui se sont essayées, qu'on fait une expérience, c'est un trajet. Après, quand on connaît bien, on peut faire de l'improvisation. Quand on a un certain nombre de choses. Et c'est visible, c'est surtout ça. Parce que le but du jeu, c'est de transmettre à du public. Donc on essaie de le faire comme ça, c'est tout le contenu de notre projet qui, pratiquement, je ne sais pas si je réponds bien aux questions, je réponds assez largement, disons qu'il y a une partie programmation, et puis qu'est-ce qu'il y a aussi cette année là ? Il y a deux ateliers, de toute façon il y a toujours un atelier plus large, mais là pour l'instant il est en point d'interrogation, puisqu'on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10.
C'est la fin du deuxième épisode de « Que se passe-t-il dans mon quartier ?». Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3, toujours sur Radio Primitive. Cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du contrat de ville de la communauté urbaine du Grand Reims.